Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Et aux frères et sœurs, là, qui sont à la verrue, hein, que la grâce et la paix vous soient données, les frères et sœurs, de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Amen. Amen. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. On pourrait dire que le processus de croissance du chrétien dans la vie spirituelle il présente des similitudes avec la croissance d'un enfant. L'enfant, il apprend bien sûr à faire ses premiers pas, à comprendre qu'il est un bipède, qu'il n'est pas un quadrupède. Hein. Il apprend à marcher d'une manière digne d'un être humain. Ça s'apprend. Et quand il sera plus grand, il apprendra à manger tout seul, et même à faire sa toilette et à s'habiller. Ou à s'habiller et faire sa toilette, voilà. Marcher, on peut dire que c'est progresser par un mouvement alternatif des jambes, vous le savez, hein. Ça fait un moment que vous l'avez appris. Et dans la vie spirituelle, c'est vrai, dans la vie chrétienne, on ne progresse qu'un pas à la fois sous la conduite du Seigneur. Il nous faut apprendre à marcher, il nous faut apprendre à nous nourrir, à nous instruire, apprendre à vivre dans la sanctification, à faire notre toilette spirituelle en quelque sorte. Il nous faut revêtir Christ. Sommes-nés de nouveau, c'est vrai, pas pour rester des bébés, la parole de Dieu nous prévient, mais pour devenir des hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ou des femmes faites, je sais pas, enfin, ça concerne aussi, bien sûr, nos sœurs, on est bien d'accord. En Jésus, nous avons le modèle parfait. 1 Jean 2,6 nous dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi. Doit marcher aussi comme il a marché lui-même. On ne vit réellement le christianisme. Et on ne peut marcher comme il a marché qu'à une condition. C'est dans la mesure où Christ prend pied et place dans nos cœurs, dans la mesure où Jésus-Christ prend pied et place dans nos cœurs. Tout se tient dans la parole. Comment le Saint-Esprit pourrait répandre l'amour de Dieu dans le cœur celui qui n'est pas en Christ? C'est pas possible. Comment le Saint-Esprit pourrait-il remplir le cœur de celui qui est plein lui-même, qui est fermé, on va dire fermé comme une huître peut-être, comme ça se dit dans le monde? On peut rien ajouter, le cœur est fermé, il est plein de lui-même, rien à faire. Il faut que Jésus prenne toute la place. Pas une petite place, pas une place religieuse, pas une place du dimanche. C'est vrai que nos efforts pour vaincre notre chair et essayer de diminuer son vin, le renoncement à nous-mêmes, ce qui plaît à la chair, va permettre progressivement, un pas à la fois, que la vie de Christ prenne place en nous. Pour marcher comme Jésus, la chose qui est déjà la plus importante, c'est de le contempler, lui. De contempler Jésus qui est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Vous savez, Jésus faisait ce qu'il voyait faire au Père, nous dit la parole de Dieu. Et faire la volonté de son Père, on peut dire que c'était le principe de sa vie. C'est lui l'homme parfait selon le cœur de Dieu. C'est lui notre David, en quelque sorte. Hein, c'est lui notre David, c'est lui notre roi. Nous avons en lui le modèle parfait, la réponse même à toutes nos interrogations. Et quelquefois, quand il y a des chemins différents devant nous, on pose la question, mais que ferait Jésus? Que ferait Jésus? C'est bon, hein, se poser la question. Alors, pour commencer à marcher, il nous faut mettre nos pas dans ceux du Seigneur. Si nous négligeons, bien sûr, les avertissements de la parole de Dieu, nous connaîtrons bien des désillusions. L'enfant, il apprend. Il apprend à ne pas mettre ses pieds dans la boue, pas marcher dans la boue. Il apprend à ne pas piétiner les légumes du jardin. Il apprend à ne pas mettre ses pieds dans la soupe du chien ou je ne sais pas quoi. Hein, ça s'apprend tout ça. Eh oui. Eh oui. Il a besoin d'un instructeur. Il a besoin d'apprendre le code de la marche, d'apprendre ce qui est bien pour marcher. Il a besoin d'être mis en garde. Alors, c'est pas la volonté de Dieu que nous mettions nos pieds n'importe où. Nous le savons bien. Nous avons besoin de mettre nos pieds dans l'empreinte des pas du Seigneur. Nous remarquons d'ailleurs que la loi, avec toutes ses interdictions, elle nous a conduit à Christ. Elle nous a conduit à nous jeter dans les bras du Seigneur. Misérable que je suis! Ma chair n'y arrivera pas. C'est pas possible. Mais grâce soit rendue à Dieu, par la vie de Jésus en moi, j'y arriverai, par la grâce de Dieu, par la vie de Jésus en moi. Alors l'enfant, il commence à marcher, il lui arrive des malheurs, vous savez, s'il n'écoute pas papa et maman, d'ailleurs, ça va lui servir de leçon. Il peut chuter, bien sûr, tomber, c'est fréquent, il peut se coincer les doigts dans la porte, il peut se brûler les mains. Il a besoin d'intelligence et de mémoire pour tirer une leçon, on pourrait dire, de ses malheurs, quoi, de ses difficultés, de ses expériences. Et le danger, vous le savez bien, je vous apprendrai rien, je pense que vous êtes très affermis en Christ. Certains ont bâti une doctrine, hein, basée sur leur compréhension, leur propre compréhension de leurs expériences. Ils ont tiré une leçon erronée, une leçon charnelle, on pourrait dire, de leurs expériences. Il faut savoir qu'il n'y a pas de contradiction entre la parole de Dieu et nos expériences. C'est la parole de Dieu est claire à ce sujet. Nous avons besoin de sagesse et de discernement. Colossiens 1:9, je vous livre la traduction Semeur. Nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté. En vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est vrai qu'il faut avoir à cœur d'accomplir sa volonté et non la nôtre. Ça s'apprend. Cela va nous conduire, tout doucement d'ailleurs, à désirer mieux connaître le Seigneur lui-même. C'est indispensable pour nous aider à discerner les pièges du chemin. Il nous faut du discernement, hein, pour examiner notre chemin, autrement qu'avec les yeux de Narcisse, autrement qu'en étant passionné de nous-mêmes. Dans cette vie, il y a souvent des choix à faire et c'est pas toujours facile. Il y a des décisions à prendre. En prenant de l'âge, l'enfant bien élevé, il va arriver à avoir une crainte respectueuse de ses parents quand même. Oh, c'est pas toujours le cas, bon, c'est pas toujours facile, mais on espère que la sagesse va l'habiter. Hein. Et nous savons que le commencement de la sagesse, c'est la crainte. C'est la crainte de l'Éternel, une crainte respectueuse. Que le Seigneur nous fasse grâce. Quand j'entends que certains aujourd'hui s'adresser au Seigneur, pas ici, hein, mais j'ai peur. On a l'impression qu'il parle d'un camarade. C'est terrible, c'est terrible. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Nous sommes dans les temps de la fin. On voit de plus en plus de chrétiens qui se tournent vers les plaisirs mondains. Ils marchent dans le même pas que le monde. Ils participent, on pourrait dire, aux mêmes distractions. Nous vivons des temps de séduction. Hein. Il y a des dérives spirituelles aujourd'hui terribles. Le sacré et le futile se mélangent. On fait une soupe avec tout ça, c'est incroyable. Alors, certains louent le Seigneur comme on adore les idoles. Ils n'ont pas peur d'apporter au Seigneur un feu étranger. Ils ne se rappellent pas de Nadab et Abihu, hein, qui eux ont apporté un feu qui ne venait pas de l'autel. Le feu ne venait pas de l'autel. On les a emportés dans leurs vêtements, les vêtements ont pour brûler, mais le feu qui est sorti de l'autel les a consumés. Alors pendant les... C'est vrai que pendant la marche, nous avons besoin d'éviter les erreurs de parcours. Avec Josiane, on a fait beaucoup de randonnées. Surtout dans les Pyrénées. Ouais. La première randonnée, ça n'a pas été une réussite. Après, on ne s'est jamais trompé. Mais la première fois, ça n'a pas été une réussite. On est redescendu de la montagne, on a retrouvé une route goudronnée, mais à un certain nombre de kilomètres de la voiture. Et on était fatigués. Alors, il y avait deux chemins. Il y a deux chemins. Ils étaient parallèles. Chose extraordinaire. Alors seulement, à un moment donné, il y en a un qui allait à droite, puis l'autre qui allait à gauche. Puis on avait pris le mauvais. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que ça s'appelait les allées dramatiques. C'est pas un mot inventé. Les allées dramatiques. Et je pense à Proverbes 14, 12 et 16, 25. C'est le même verset. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est vrai que quand nous prenons des décisions, nous avons besoin de nous approcher du Seigneur. On peut prendre un chemin plaisant. Vous savez, c'est le cas de Lot. C'est la convoitise des yeux, la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. C'était comme un jardin de l'Éternel. C'était extraordinaire à voir. Et c'est le choix de beaucoup de chrétiens dans cette fin des temps. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. C'est écrit, hein. On est prévenu, hein. Ils voient le monde comme un jardin arrosé. C'est formidable. Alors qu'il n'y a que des citernes crevassées, nous le savons bien. En allant boire à ces citernes-là, finalement, ils démontrent que Jésus ne règne pas pleinement dans leur cœur, que Jésus ne fait pas leur joie. C'est une forme de mépris, d'ailleurs, pour le Seigneur qui est la seule source d'eau vive. Il n'y en a pas d'autre. Hein, en dehors de Jésus, le cœur n'est pas content, il n'est pas satisfait. Nous avons trouvé en Jésus celui qui fait notre joie, notre paix. Alors, le Seigneur a dit... Dans Matthieu 7, 13, et vous connaissez bien ce passage, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Ouais, » c'est le tableau qui est là-bas d'ailleurs. Que j'ai connu dès mon enfance, quand j'étais chez mes grands-parents, il y a le chemin large et spacieux, et le chemin étroit, j'ai toujours vu ça. Depuis ma jeunesse, ça m'a marqué quand même, cette pensée. Ce n'est qu'un tableau, bien sûr, c'est pas la parole, mais bon, c'est quand même basé sur la Bible. Combien d'erreurs de parcours dans la marche chrétienne? On a raisonné avec notre intelligence naturelle, notre sensibilité charnelle. À certains carrefours, on a agi selon l'homme, selon ses désirs, selon ses rêveries, selon ses faiblesses sentimentales. Que d'erreurs de parcours chez les chrétiens. Mais bon, Seigneur nous fait grâce. et il nous ramène dans le bon chemin si on s'est égaré. Alors, il y a des passages dans la Bible qui sont intéressants, alors tous bien sûr, mais en ce qui concerne notre sujet, 2 Timothée 1,13, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Retiens dans la foi et dans l'amour hein, qui est en Jésus-Christ. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. C'est fort tout cela, c'est une parole forte. Et 2 Timothée 3,14, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Ce sont des pensées très fortes. Retiens, garde, demeure. C'est important. C'est important. Seigneur, quelquefois, nous a parlé. Vous aussi, on a tous, nous a, dans certaines circonstances, il nous a mis un verset de la parole de Dieu sur notre cœur pour nous montrer le chemin. Serrons ces choses dans nos cœurs. Ne les oublions pas. Retiens, garde, demeure. Alors c'est important parce qu'on rencontrera toujours des gens qui essaieront dans notre marche de nous faire des croche-pieds. On en a rencontré peut-être tous. Hein. Et essayer de nous faire perdre de vue la vocation que le Seigneur nous avait adressée. Alors la parole de Dieu nous dit aussi de marcher dans la lumière. Hein. 1 Jean 1,7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Quelle grâce. Le péché, le mensonge, c'est le chemin du diable, c'est le royaume des ténèbres. Nous sommes devenus des enfants de lumière. Et on pourrait dire que c'est en marchant dans la lumière, en mettant notre vie en conformité avec la parole de Dieu, que nous sommes un, nous sommes unis en Christ. Que nous sommes au bénéfice de la vraie communion fraternelle par notre ressemblance réciproque au modèle, à Jésus-Christ notre Seigneur. C'est important ça. Hein? L'amour, la vérité, la lumière, la sainteté, tout se tient et contribue à l'unité de l'Église en Jésus-Christ. C'est vrai que nous sommes appelés aussi à marcher dans la vérité, si l'on prend la 2e épître de Jean par exemple. On voit combien l'accent est mis par l'apôtre, l'apôtre qu'on a appelé l'apôtre de l'amour, mais il parle de la vérité, hein. Il met l'accent sur la vérité. Enfin, dans notre texte là, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La promesse est formidable. Combien c'est merveilleux quand même, combien c'est rassurant. C'est vrai qu'on sent qu'on n'a pas encore atteint la perfection, vous peut-être, mais pas moi, hein. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché pendant notre marche. Mais attention, il y a un « si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Amen. Gloire au Seigneur. Et cette lumière-là, quand on marche dans la lumière, vous savez, elle devient, au fil des jours, elle s'éteint pas. Bien au contraire. Hein, c'est Proverbe 4,18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Ce sont des promesses pour nous. Nous avons besoin de nous attacher à ces choses. Quelle merveilleuse promesse dans la parole de Dieu, non? Le psaume 91, par exemple. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. C'est la vipère, ou je ne sais pas trop. Le lion nous parle de force, l'aspic, ça nous parle de ruse. Et ça, c'est les œuvres du diable, c'est l'action du diable. L'adversaire, il use de force, il use de ruse. On pourrait égarer les fidèles, mais nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur veille, il a l'œil sur la marche des siens. J'oublie pas que notre frère a parlé de la trace du serpent la dernière fois, qui nous a promis de nous parler de la trace du navire et de l'homme. Oui. Et oui, c'est bon de se rappeler des méditations. Que le Seigneur nous aide. Il faut apprendre, bien sûr, vous serez entièrement d'accord avec moi, à marcher par la foi. Par la foi. L'enfant, pour marcher, il faut quelquefois qu'il se lance. Hein. Comment ils font, les parents? Il y en a un qui se met 1 mètre plus loin, puis il tend les bras. Elle vient au début, il a peur. Il n'ose pas. Puis petit à petit, il va prendre de l'assurance. Hein. Il ne va plus hésiter. Il va se jeter dans les bras de ses parents. Il va faire quelques pas. Il aura appris que c'est possible et qu'il suffit, bien sûr, de faire confiance à son père ou à sa mère, à celui qui lui tend les bras. Vous avez l'exemple de Pierre, bien sûr. L'exemple de Pierre. Hein, Pierre. Il voit Jésus marcher sur les eaux. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Eh oui. Mais il a attendu que Jésus lui dise bien, quand même. Il n'a pas enjambé la barque avant, d'après ce qui est écrit, quand même. Et quand Jésus lui a dit bien, il a enjambé la barque. Hein, bien sûr. Mais c'est quand même intéressant, parce que si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, on voit que sa foi, elle est prête à l'action. Sa foi est prête à agir. Elle est prête à agir. C'est lui qui va provoquer le miracle. Et nous avons besoin, nous, de cette hardiesse spirituelle. Nous avons besoin de cette hardiesse spirituelle-là. Que le Seigneur nous aide, afin que notre foi elle devienne un pont sur les vagues, sur l'océan déchaîné, hein, sur la mer déchaînée. Nous attendons quelquefois, comme ma mère me disait, faut pas que t'attends que tu attendes que ça va te tomber dans le bec. Eh non, on attend quelquefois que ça vienne tout seul. Hein, quand même, Pierre, vous voyez, il a fait une expérience formidable, c'est lui qui l'a provoqué. C'est la même chose pour nous. Hein. Regardez quand on voit Israël aux portes de Canaan, il a cessé de marcher. Il a cessé de marcher aux portes de Canaan. La foi, elle leur offrait un pays où coule le lait et le miel. Le doute leur a offert 40 ans de désert. Eh bien pour nous c'est pareil. C'est pareil pour nous. Hein. La vie de l'esprit, c'est notre Canaan ici-bas. Sinon, c'est le désert, la vie de la foi, que le Seigneur nous aide. Il faut apprendre à marcher par l'esprit, c'est vrai, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. L'esprit c'est la source, vivre selon l'esprit, ça va être la manifestation, quelque sorte, de l'abondance de cette source en nous. Nous avons reçu l'esprit pour marcher selon l'esprit, pour... C'est vrai pour le témoignage, c'est certain, mais pour aussi être conduit par l'esprit dans une progression spirituelle. On pourrait dire une projection vers le but. Et le but, c'est Christ. On a, pour notre marche, quand même, c'est extraordinaire, c'est qu'on a un GPS. Vous connaissez le GPS divin? C'est le Saint-Esprit, hein. C'est vrai que, dans le psaume déjà 32, il est écrit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Mais Jésus a dit dans Jean 16, 13 « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Nous avons un GPS formidable. Pierre, il ne nous fait pas tourner en rond celui-là. Il nous amène direct au but. Il ne parlera pas lui-même. Il dira des... tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera. Il y en a qui ont oublié ça. Parce que l'œuvre de l'Esprit sur la terre, c'est de glorifier Jésus. Et il y en a qui essaient à tout prix de glorifier le Saint-Esprit en oubliant Jésus. Donc, mais le Saint-Esprit a une mission sur cette terre, c'est de glorifier notre Seigneur. Nous avons besoin de marcher par la puissance de l'Esprit, il n'est pas possible de marcher quand on n'a pas de force. Quand on est sans force, les apôtres, au soir de la résurrection, ils étaient sans force. Hein, ils étaient barricadés, ils n'avaient pas la force d'aller. Ils avaient vécu avec Jésus. Ils avaient vécu avec Jésus quand même, c'est extraordinaire. Hein. Ils avaient entendu son enseignement. Il n'y a pas meilleur prédicateur que le Seigneur. Ils avaient vu son exemple. Ils avaient connu son intimité. Ils étaient sans force. Le Seigneur leur donnera l'ordre d'attendre le Saint-Esprit promis. Vous recevrez une puissance, une grande force, quand l'Esprit viendra sur vous. Alors nous voyons que dans les actes des apôtres, après l'avoir reçu, quand même, Pierre a pu dire aux paralytiques, « N'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche !» Amen. Gloire au Seigneur. Et puis, c'est vrai qu'on voit que le Seigneur travaillait avec eux. Que le Seigneur travaille avec nous. Le Seigneur travaille avec nous. Travaille avec eux, il confirmait la parole, ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je suis trop long, je vous regarde de l'autre. Je peux vous raconter encore une petite histoire.
Oui.
Une histoire de militaire. Quand je suis parti à l'armée, j'avais reçu ma feuille, j'étais marqué Port Lyautey, Maroc. Et la veille, j'entends à la radio que le Maroc refoulait les troupes qui venaient de France. Il n'en voulait plus. Alors je me suis retrouvé à la citadelle de Lille. Alors nous étions des bleus, on venait juste là, j'étais avec le groupe qui devait partir au Maroc, bien sûr on nous a éparpillés un petit peu dans le nord, mais on venait de descendre juste du camion. Il y a une troupe qui est arrivée. Elle marchait au pas, hein, le fusil sur l'épaule, le casque lourd, le sac à dos, rendez, ça marchait, bon, ça y allait, hein. Et ils chantaient. Pour ce qu'ils chantaient, je ne me rappelle plus, mais c'était des chants comme j'irai revoir ma blonde qu'au pays j'ai laissé. Il y avait des choses comme ça, quoi. Et puis, bah oui, section halte, reposez armes, repos, rompez les rangs. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu le désastre. Il y en a qui se sont assis par terre. Il y en a qui sont adossés au mur. Il y en a qui sont partis en zigzagant. On se regardait tous. Ils vont nous faire subir ça à nous. Quand on marche, on peut se fatiguer. Ils étaient épuisés. Épuisés, hein, c'est. C'est vrai que nous, on pense à notre Seigneur, quand même. À midi, là, au bord du puits de Jacob, fatigué, accablé par la chaleur. Il n'est même pas allé avec ses disciples au village. Et certainement qu'il était épuisé, notre Seigneur. Et puis, bien sûr, on pense à notre Seigneur qui monte le Golgotha, qui ne veut même plus porter sa croix, qui n'en peut plus, qui s'écroule. On réquisitionne Simon de Cyrène pour qu'il porte la croix derrière Jésus. Ça, c'est vrai que quand on y pense, nos cœurs se serrent. Que nous puissions laisser grandir en nous la haine du péché. Que grandisse en nous encore davantage, mes frères et sœurs, la haine du péché. Or c'est vrai qu'il existe un état d'épuisement physique, mental, moral et même spirituel. Au départ, ça peut être un petit surmenage qui passe inaperçu, puis ça peut déboucher réellement sur un état d'épuisement général. Nous sommes humains. Il ne faut jamais oublier que nous avons des limites. Pour pouvoir continuer à marcher, il nous faut boire à la source. Le psaume 110 le dit, bois au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Et puis vous connaissez bien sûr Ésaïe 40, 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. On vient à la prédication de dimanche, hein. Les aigles. Ils courent. Et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. Dans ces temps de la fin, veillons et prions comme le Seigneur nous l'a ordonné dans le jardin, juste avant d'être arrêté. Ces dernières paroles dans le jardin, elles ont une importance capitale. Moi je crains qu'aujourd'hui, j'ai peur qu'aujourd'hui, certains frères et sœurs pensent qu'il suffit de chanter, de danser. Mais le Seigneur a dit, veillez et priez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chanter, hein, c'est pas ce que je veux dire, bien sûr. Mais certains s'imaginent qu'il suffit de chanter, de danser. J'appelle ça la louange. Et la louange, ça sert à tout, ça remplace tout, on a l'impression. Que le Seigneur nous fasse grâce, hein, il nous donne du discernement. Il y a vraiment aujourd'hui des dérives terribles. Buvons abondamment au fleuve de la ville, de la vie, dans nos journées. Réellement, que nous puissions sans cesse nous mettre aux pieds de celui qui est notre source d'amour, de paix, de joie, de repos. Vous savez, même quelquefois au milieu des activités, et même quand je travaillais, moi je me souviens que j'avais mon âme, il y avait juste un instant, quelquefois, quelques secondes. Ah, Seigneur, comme ça fait du bien. Hein, on a souvent pris l'image, vous savez, du bout de bois qu'on maintient dans l'eau, là. Et tant que vous le maintenez dans l'eau, il ne remonte pas. Mais dès que vous le laissez, ouf, il remonte à la surface. Nous avons besoin de cela, hein, d'élever nos cœurs dans la journée. Merci Seigneur. Et je crois justement que ces merveilleux chants que nous chantons, et quand ils restent à l'intérieur, ils nous soutiennent quelquefois, ils nous encouragent, hein, ils nous exhortent. Alors je vais terminer hein, par 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Les mots sont forts. Nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen.
Amen.
Gloire à ton nom, Seigneur.
Alléluia.
C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher toujours un peu plus près du Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur.